Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière brillante ou un peu terne les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Alors, je ne le fais pas à chaque émission et heureusement, mais ce jour, je vous rappelle que notre générique, vous avez suivi, est une musique de film. Même moi, je n'avais pas suivi la musique d'un film de Blake et Edwards tourné quelque part entre 1961 et 1962 en français. On ne sait pourquoi ça s'appelait Diamant sur canapé. En anglais, on sait pourquoi. Ça s'appelait Breakfast at Tiffany's. On y voyait dans les rôles principaux la merveilleuse Audrey Hepburn et le délicat George Peeper. De le tout était avec une musique d'Henry Mancini et Moon River, puisque vous l'avez sans doute reconnu, fut cette année-là et reste depuis Forever un hit de la musique de film et de la chanson d'amour. Tout court, je pense qu'on peut encore emballer de nos jours avec Moon River, sinon ce n'est même pas la peine de vivre. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien quelque chose de tout à fait différent, quoique nous ne sommes pas loin de l'emballement, puisque nous allons consacrer cette courte émission à évoquer la longue carrière de notre bébel national, et oui, Jean-Paul Belmondo, qui fut tout au long des années 60 à 80 l'un des emblèmes majeurs du cinéma français. Alors les esprits chagrins diront essentiellement commercial, mais les autres, dont je suis, diront que Jean-Paul Belmondo a aussi tourné dans quelques films tout à fait majeurs, et c'est ceux-là et les autres aussi que nous allons essayer d'évoquer, dégrainer musicalement bien sûr, pour évoquer la carrière d'un acteur français né à Neuilly-sur-Seine le 9 avril 1933. Son père était un sculpteur bien connu, Paul Belmondo. Sa maman était artiste peintre. Bref, il était déjà dans un milieu artistique, ce qui fait que à 16 ans, il décide de devenir acteur. Ça ne se passe pas toujours très bien. Il réussit néanmoins à entrer au conservatoire où il se fera des amis pour la vie et non des moindres, Jean-Pierre Marielle ou Jean Rochefort entre autres. Il sort du conservatoire en 1956, il tâte du théâtre et aussi il tâte, puisque c'est cela qui nous intéresse, du cinéma dès 1957. Alors le film programmatique, diraient les esprits chagrins, à proscrire, diraient les autres, s'appelle « Sois belle et tais-toi ». Un film de Marc Allégret, ce n'est pas la peine d'inonder le standard de Divergence FM, je ne dis pas rien, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. « Sois belle et tais-toi » donc de Marc Allégret, que suivra « Drôle de dimanche » du même Marc Allégret, puis une série de films plus ou moins dispensables avant que notre bébel national ne soit rejoint par la nouvelle vague, et notamment par certains de ses réalisateurs les plus fameux, notamment Jean-Luc Godard, avec lequel il collabore pour son premier court-métrage, Charlotte et son Jules, en 1958, et avec Claude Chabrol, avec lequel il collabora pour le doublement dispensable à double tour. Pourquoi je dis doublement, on ne sait pas, juste parce que je voulais en venir, même si hélas nous ne pourrons en écouter un extrait pour en venir, j'y arrive à bout de souffle, c'est bien le cas de le dire, le film que Jean-Luc Godard tourne en 1960 avec Gene Seberg qui vend l'Herald Tribune sur les Champs-Élysées, film qui marque vraiment la nouvelle vague, certainement l'un de ses fils phares, et aussi il faut bien le dire, un de ceux qui a le moins mal vieilli parmi tous ces films tournés dans la liberté absolue ou en tant que tel ou supposé tel dans les années 60. Bref, en tout cas, un film qui prouve que Jean-Paul Belmondo fut aussi un acteur des grands chefs-d'œuvre du cinéma français, même si ensuite, eh bien, il se cantonna assez largement à des films plus commerciaux. En 61, on le vit toujours dans une filmographie des plus relevées avec Jean-Pierre Melville dans Léon Morin prêtre, ça ne rigolait pas, certes, et on le vit aussi dans Une femme est une femme du encore Jean-Luc Godard. Et puis, et c'est là que tourna un peu sa carrière, on le vit aussi dans Le Cartouche de Philippe de Broca, une musique de Georges Delerue. Un jour, peut-être, je vous la proposerai. Un Cartouche qui fut un grand succès populaire et contribua très largement à imposer ses rôles d'aventurier rigolard et désinvolte, dont le dit Jean-Paul Belmondo, avec la complicité parfois un peu coupable de Michel Audiard, se fit une grande spécialité dans les années 70 ou 80. Nous allons évidemment commencer par évoquer musicalement, il est temps, la carrière de Jean-Paul Belmondo avec un autre film dont les dialogues étaient signés de Michel Audiard, un film tourné en 1962 par Henri Verneuil. Alors je vous en parlerai après, je vous donne quand même le titre, c'est la moindre des choses dans 24 notes secondes. Ça s'appelait Un singe en hiver. C'est devenu cultissime. C'était la rencontre entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo et la musique de ce film. Et c'est bien rare et bien dommage que cela soit rare de l'entendre dans 24 notes secondes. Était signé de Michel Magne. Allez, tout de suite, un petit extrait. La musique ô combien ironique de Michel Magne pour un film d'Henri Verneuil tourné en 1962, Un singe en hiver, ô combien ironique, et bien tout simplement parce que le personnage principal de ce film, Albert Quentin, incarné par Jean Gabin, n'arrête pas de ressasser ses souvenirs coloniaux. Et puis il avait promis à sa femme, incarnée par la discrète et indispensable Suzanne Flon, de ne plus boire, mais arrive en ville le dénommé Gabriel Fouquet alias Jean-Paul Belmondo et arrive ce qui devait arrivé, un film cultissime, j'ai même vu un reportage à la télévision où des habitants émus nous faisaient comprendre que, vous voyez le plan, là, Jean Gabin, il était là, juste là. Bref, on a les fétichismes qu'on peut. Alors, je lis sur ma petite fiche qu'à l'époque, le gouvernement, qui faisait mieux son travail que maintenant, et en l'espèce le ministère de la Santé, avait failli s'opposer au tournage parce qu'il craignait que le film ne soit qu'une apologie de l'alcool. Alors là, les gars, je vous rassure, oui, c'est une apologie de l'alcool, mais alors, du début jusqu'à la fin, qui permettait à Michel Audiard, adaptant un roman d'Antoine Blondin, qui n'était pas contre non plus l'apologie de l'alcool, eh bien de faire un film cultissime. Quoi dire d'autre ? La seule rencontre à l'écran entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, aussi étonnant que cela paraisse sous la houlette du sinon vétéran, du moins aguerri, Henri Verneuil, d'origine arménienne, comme personne ne l'ignore. Alors on aime ou pas, on peut trouver que aussi bien Belmondo que Gabin cabotinent à outrance, mais on peut aussi considérer, et ça on n'y peut rien, que 50 ans plus tard, eh bien, on parle encore d'un singe en hiver qui a atteint un statut un peu comparable dans son genre au Toton flingueur. Il n'y a pas beaucoup de films en noir et blanc qu'on voit encore à la télévision. Un singe en hiver en est, et ma foi, c'est plutôt bienvenu. Jean-Paul Belmondo, donc, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, alterna ensuite à nouveau les films relativement auteuristes et les films un peu plus commerciaux. Il fut en 1963 de deux films de Jean-Pierre Melville, Le Doulos et L'aîné des fers chauds, ce dernier aux côtés de Charles Vanel, si je me souviens bien. Il fut en 1964 dans le délicieux L'homme de Rio de Philippe de Broca aux côtés de la regrettée Françoise d'Orléac. On le revit devant les caméras d'Henri Verneuil pour la superproduction Weekend à Zuidcote en 1965. Et cette même année 1965, on le vit encore dans un de ces films sommes du cinéma français, un peu comparable à À bout de souffle, et en tout cas qui lui permettait de retrouver Jean-Luc Godard pour interpréter le rôle de Ferdinand. Ferdinand alias Pierrot le Fou, accompagné de Marianne alias Anna Karina, dont certainement personne n'a oublié le suicide à la fin du film, le visage peint en bleu. Il se barde d'explosifs auxquels il met le feu. Alors c'était l'époque où Jean-Luc Godard était encore compréhensible, mais je ne dis pas ça pour me moquer, j'aime le Jean-Luc Godard incompréhensible. La musique de ce film, encore un compositeur qu'on a peu souvent l'occasion d'écouter dans 24 notes secondes, était signée d'Antoine Duhamel. Elle va peut-être vous rappeler quelque chose. Le film était de 1965. J'en dirai peut-être encore quelques mois après, mais place à la musique. Vous êtes bien, je l'espère en tout cas, sur Divergence FM. L'envoûtante musique d'Antoine Duhamel pour Pierrot le Fou, un film de Jean-Luc Godard tourné en 1965. Alors, à la petite fiche précise, d'après le roman de Lionel White, alors je suppose, sans connaître ni Lionel White ni son roman, qu'il s'agit d'un policier. Effectivement, quand vous déroulez le résumé de Pierrot le Fou, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un film policier. Par contre, quand vous le voyez et quand vous l'entendez, c'est évidemment tout à fait autre chose, puisque Jean-Luc Godard, Jean-Luc c'est mieux, il porte à ses sommets cet art du collage à tout point de vue qui fit sa spécificité dans ses films des années 60-70, des collages de commentaires, des collages de sons, des collages de musique, bref, un peu tout, de nombreuses références à la publicité, à la BD, à la peinture. On voyait aux côtés de Jean-Paul Belmondo et d'Anna Karina Dirk Sanders, on voyait Raymond DeVos, on voyait aussi Samuel Fuller qui jouait son propre rôle. Bref, on voyait un film qui, en passant au Festival de Cannes, de Venise, cette année-là, en 65, suscita de très longues polémiques. Et Louis Aragon, qu'on a connu moins inspiré, mais pour une fois, publia dans les Lettres françaises un article intitulé « Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard ?» Une formule qui est restée fameuse pour illustrer le langage de ce trublion, le mot est bien faible, du cinéma français, même s'il est suisse, comme vous ne l'ignorez pas, que Jean-Paul Belmondo retrouvait en 1965, après avoir rassuré avec À bout de souffle sa célébrité. Bref, une petite preuve supplémentaire de ce que Jean-Paul Belmondo ne fut pas seulement un acteur de grosses machines commerciales, même s'il continua à les alterner dans la suite de sa carrière, puisque après... Pardonnez-moi, Pierrot le Fou, on le vit la même année, toujours en 1965, dans un autre film de Philippe de Broca, un réalisateur bien oublié, c'est bien dommage, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. On le veut ensuite dans quelques films un peu moins importants. En 69, il aligna un gros succès commercial, Le Cerveau de Gérard Houry, et un flop qui était pourtant un film plus qu'estimable, La Sirène du Mississippi de François Truffaut, avant qu'en 1970, eh bien, un producteur des plus avisés ne se décide à faire une équation. Alain Delon, c'est le plus connu. Jean-Paul Belmondo, c'est le plus connu. Alors pourquoi pas faire un film qui réunirait Jean-Paul Belmondo et Alain Delon comme ça? Ce sera le jackpot. Et effectivement, ce fut Borsalino, tourné en 1970 sous la caméra du professionnel Jacques Deray, avec au scénario Jean-Claude Carrière et Claude Sauté, Jacques Deray et Jean Co. Excusez du peu. Bref, un film qui était connu comme, qui était pensé, pardonnez-moi, comme une machine à succès, et qui le fut. Mais qui le fut, ma foi, pour la bonne cause, car c'est une reconstitution tout à fait bienvenue d'un Marseille où on se tirait à tout va dans les rues. Mais je vous rassure, tout ça se passait en 1930. Mais oui, en 1930, alors aux côtés du duo de stars Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, on avait retenu un casting rien moins qu'impressionnant. Michel Bouquet, Catherine Rouvel, Françoise Christophe, Julien Guillaumard, Nicole Calfan, Daniel Hivernel, Mario David, etc., etc. Mireille Darc aussi, qui avait un tout petit rôle, peut-être des noms qui ne vous disent plus grand-chose, mais qui, dans les années 70, étaient des seconds rôles tout à fait solides pour un film qu'il ne l'était pas moins, et dont la bande originale, alors là, c'est un peu plus surprenant, connut un très très grand succès qui fut réutilisé largement dans la publicité. Cette bande originale était signée d'un grand jazzman, d'un grand compositeur de musique et de films aussi, Claude Bolling. Alors vous allez certainement vous en rappeler dès que vous allez l'écouter, mais quand est-ce que vous allez l'écouter? Mais tout de suite, chers amis, ne soyez pas si impatients. Laissez-moi vous dire que vous êtes dans 24 notes secondes, que vous êtes sur Divergence FM et que, regardez-moi bien dans les yeux, vous êtes bien, mais alors très bien. Wow. La célébrissime musique de Claude Bolling pour Borsalino, un film de Jacques Deray tourné en 1970 qui fut un triomphe annoncé mais mérité pour un film qui avait vraiment la qualité française, si l'on peut l'appliquer dans ces années-là, des années 70 et une musique, j'espère que ça vous a rappelé quelque chose car ça tourne un peu dans toutes les têtes, encore un triomphe pour Jean-Paul Belmondo et pour Alain Delon. Alors à la fin du film, j'espère ne pas vous le spoiler, on peut dire spoiler, oui on peut dire spoiler, eh bien Jean-Paul Belmondo mourait laissant Alain Delon inconsolable mais pas tout à fait, puisqu'on le vit quelques années plus tard, je ne sais plus trop, dans Borsalino & Co. Parfois, quand on a une bonne recette, eh bien, on continue à l'appliquer. Dans les années qui suivirent, je vais être un peu plus rapide, on vit Jean-Paul Belmondo aux côtés de Marlène Jobert, dans le délicieux, dans l'adorable Marié de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, qui, comme son titre le laisse indiquer, se passait en 1791, vous l'avez compris, et qui était vraiment une petite merveille d'humour historique pour un film qui était dans la musique des signes de Michel Legrand. Mais là, je n'ai pas ça dans ma discothèque. Par contre, et là, nous allons retrouver la grosse cavalerie du film d'aventure avec héros musclés. Et Dieu sait que Jean-Paul Belmondo joua avantageusement de sa musculature dans les années 70. Eh bien, on retrouva dans un rôle de truand dans un film tourné en 1972 par José Giovanni, qui est un vieux routier à la fois des romans policiers et des films policiers, puisqu'il fut aussi l'interprète notamment du Trou de Jacques Becker, qui racontait de façon ô combien brillante l'histoire d'une évasion. Eh bien, José Giovanni était en l'espèce était à la fois le romancier qui adaptait son propre roman, qui écrivait ses propres dialogues et qui réalisait son propre film pour L'âge Koumoun, un film tourné en 1972 avec Jean-Paul Belmondo bien sûr et avec aux côtés de Jean-Paul Belmondo Claudia Cardinal et Michel Constantin dans deux genres tout à fait différents mais qui, sauf erreur de ma part, jouaient dans ce film un frère et une sœur ou quelque chose de ce genre. Bref, je vous dirai ça après avoir lu ma petite fiche. On va plutôt s'écouter un extrait de cette bande originale qui est signée de François Droubet. Alors, j'espère que vous partagez mon plaisir, mais ce n'est pas l'un des moindres de ces émissions de 24 notes secondes de faire la part belle à des compositeurs français. Michel Magne, et Claude Bolling et quelques autres qui ne déméritent pas, même s'ils n'ont pas toujours ni les moyens ni les honneurs des compositeurs de musique de film américains qui restent la référence. On va écouter un petit extrait de la bande originale de ce film. Elle était signée du regretté François Droubet qui nous quitta bien prématurément quelques années plus tard. Alors là aussi, je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. Ma foi, une émission souvenir dans 24 notes secondes. Thank you. Ah, j'adore, j'adore la partition minimaliste et ô combien étonnante de François Droubet pour un film de José Giovanni tourné en 1972, L'âge commun, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal. Alors, une petite rectification, José Giovanni n'était pas l'interprète du trou, mais plus simplement était à l'origine du roman duquel Jacques Becker s'était inspiré. On m'a fait comprendre en haut lieu qu'il fallait que je me dépêche pour qu'on puisse écouter encore un petit extrait. Donc, on va en rester là pour évoquer la carrière de Jean-Paul Belmondo. Il y aurait beaucoup à dire, mais du coup, on va plutôt écouter un extrait de la bande originale. Alors j'hésite un peu à vous présenter la chose, mais je suis sûr que ça va vous rappeler des bons ou des mauvais souvenirs. Allez, si, quand même, il s'agit d'un extrait de la bande originale du Professionnel, un film bien viril, bien musclé, avec Jean-Paul dans le rôle principal et avec Ennio Morricone à la partition. De toute façon, vous l'auriez deviné tout seul. Pourquoi est-ce que Job et Screen a les places à la musique? 24 notes secondes. Wow. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Wow. Fini, bye bye.